parfois déguisé en trader, en agriculteur ou encore en athlète olympique. Depuis mon enfance, j'ai toujours aimé sentir la magie des métiers. En grandissant, j'ai pourtant appris qu'il est difficile de choisir le bon costume qui guidera notre vie professionnelle. C'est exactement pour cette raison que j'ai décidé de créer MC Talks. Bienvenue dans un univers où je vous propose d'aller à la rencontre de personnalités au parcours atypique et quelquefois étonnant.
Bah écoute, là on dit que je réponds en toute honnêteté. Donc là tu vois, genre je vais laisser le personnage de spectacle qui est toujours souriant. Ça va, je sors de 2 semaines d'enfer, mais ça va mieux. J'ai eu des fluctuations d'humeur à cause d'une accumulation d'informations rapides. Je sais pas si tu connais ça, où tu as des stimulus qui arrivent et qui te font aller très bien puis très mal. Et là, ça va, je suis assez content, alors que je sors de là, comme beaucoup de monde, de l'année Covid. Donc, avec énormément de choses qui se sont passées pour beaucoup, où je suis dans la catégorie des personnes dites non essentielles, toujours agréable. Donc voilà, là, je me sens un peu plus essentiel. Je me sens davantage vivant qu'il y a quelques mois, quoi.
Et non essentiel ou essentiel, la deuxième question, c'est qu'est-ce que tu fais sur Terre ?
Eh bien, sur Terre, je suis non essentiel. Je suis mentaliste. Je m'appelle Clément Fraise. Et donc, mentaliste, ce n'est pas un vrai métier. C'est ma grand-mère qui m'avait dit ça, fut un temps. Et je crois qu'elle a raison, en fait. Mais le vrai métier est très, très long. C'est-à-dire que je suis comédien, réalisateur, vidéaste, écrivain, conférencier, homme de spectacle, metteur en scène. Et je dois en oublier 2-3. Donc, faire de la com, faire de la production. Et faire, voilà. Donc, c'est mon métier, c'est d'être Clément Fraise et d'essayer de le faire le mieux possible. Et donc, sur Internet, je vulgarise des sujets autour de la question de l'esprit critique, de comment aujourd'hui on évalue la qualité des informations que l'on nous apporte, afin d'éviter les pièges naturels de notre cerveau que l'on a tous. Même les personnes très intelligentes, même ceux qui pensent en être exemptes, on a tous des erreurs de raisonnement. Et mon objectif en tant que mentaliste, c'est tenter de montrer à travers justement le divertissement, l'illusion, comment on se sert de ces rouages-là, comment on peut piéger notre raisonnement. Et si j'arrive à le faire pour vous divertir, d'autres peuvent arriver à le faire pour vous nuire ou pour vous vendre de fausses idées, de fausses informations, de faux remèdes, pourquoi pas, de fausses croyances, etc.
Bah, je vais t'avouer, voilà. Je discutais avec des amis et j'expliquais que j'allais te rencontrer, que tu es mentaliste. Et la réaction première des gens, alors, dans le podcast, on ne va pas voir ma tête, mais c'est un peu un pas en arrière en se disant « Mais mentaliste, c'est un charlatan que tu vas voir, c'est quoi ?» Donc c'est quoi, et avant qu'on parle de toutes les autres casquettes que tu as, parce qu'il va falloir que je sois organisé, parce que tu fais beaucoup de choses, sur la partie mentaliste, commençons par là, tu es un charlatan ou ce que tu dis aussi esprit critique, donc esprit critique et charlatan, ça ne va pas trop ensemble.
Thomas Cédurand, mon ami Mandax, me dit que je suis un menteur honnête, une expression qu'il a empruntée, je crois, à James Randi, donc ça me fait rire. Mais mon autre camarade, Fabien Olicard, lui, qui n'est pas sur la même veine, on va dire, du mentalisme que moi, mais qui est aussi mentaliste et qui exerce son art avec de fort belles manières aussi, lui me disait, il disait notamment aussi sur scène dans un sketch, c'est une de ses blagues, il dit personne ne savait ce que c'est, depuis la série sur TF1, personne ne sait ce que c'est, ça n'a rien changé. Et je pense que c'est vrai, je pense qu'il y a autant de définitions du mentalisme qu'il y a de mentalistes. On a plus ou moins tous quand même des points communs sur lesquels on est d'accord, à savoir absence de pouvoir et absence de prétention de pouvoir paranormaux. Y en a qui versent plus dans la pseudo-science que d'autres, il y en a qui versent plus dans la science que d'autres, il y en a qui versent plus dans la mémoire, d'autres plus dans l'hypnose, d'autres plus dans la psychologie, d'autres beaucoup plus dans la magie. Mais en gros, c'est l'apport de ces 4 facteurs-là. C'est de l'illusion, de la mnémotechnie, un peu d'hypnose, quelques rouages psychologiques, le tout, pour donner l'illusion de phénomènes prodigieux, surnaturels, par le cerveau. Donc, lecture de pensée, télépathie, prédiction de l'avenir, intuition sensible, etc. Et quand c'est bien mis en scène et que c'est, entre guillemets, bien fait, ben, ça peut donner des choses absolument sublimes, tant d'un point de vue émotionnel et spectaculaire que d'un point de vue effectivement bluffant. Donc, on est tous plus ou moins d'accord là-dessus pour dire que c'est une branche, on va dire. Alors, Est-ce que la magie est une branche du mentalisme? Parce que le mentalisme, c'est quand même très global et ça englobe d'autres choses. Est-ce que c'est le mentalisme qui est une branche de la magie? Sans doute un peu des deux. Mais en tout cas, c'est ça. C'est une espèce de pratique qui vise à faire expérimenter des choses qui donnent l'apparence d'être irrationnelles avec des rouages et des phénomènes rationnels.
Et à quel moment tu t'es dit, je vais faire du mentalisme mon métier? Ça, c'est le truc qui m'étonne le plus.
Ouais, c'est ben oui. Non, alors c'est un choix. Je l'expliquais dans un TEDx que j'ai fait à Toulouse. C'est un choix totalement irrationnel. Je suis né dans une famille très 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 pauvre. J'ai connu pendant des années l'instabilité, l'insécurité, voire même l'insalubrité à certains moments. Et en fait, quand tu n'as pas de contact dans ce métier, quand tu es un garçon qui vient d'un quartier paumé de Provence, d'un quartier HLM paumé de Provence, et que tu es là et tu dis non, mais en fait, je vais monter sur les scènes des grands théâtres parisiens, c'est quand même délirant. Et avec le recul, il y a des moments où je me demande, dans certains moments où je fatigue, j'ai un quart de siècle l'année prochaine, hein, donc je ne comprends pas TikTok, donc je suis déjà un boomer pour certains, mais quand je vois certaines choses que j'ai pu faire à 15, 16, 17, 18 ans, et la fougue et la passion que j'avais, et le machin, je me demande aujourd'hui si je tourne pas un peu au ralenti, je me demande, putain, mais si je devais refaire aujourd'hui de telles choses, je sais pas si j'en serais capable à nouveau. Donc ça me fascine un peu, moi-même. Mais ouais, j'ai commencé le théâtre et l'illusionnisme vers mes 6 ans, l'illusionnisme en autodidacte, le théâtre dans une troupe d'enfants, et enfin, théâtre, tu vois ce que je veux dire, pour les tout petits, quoi, donc des trucs simples, mais voilà. Et en fait, ça a commencé à mûrir. J'ai commencé à faire une faculté de psychologie, ce qui m'a pas du tout plu comme expérience. J'aime énormément le milieu universitaire en dépit justement de ce qu'il faut faire pour y être. C'est-à-dire que encore aujourd'hui, j'ai beaucoup d'attaches dans le milieu universitaire. La plupart de mes interlocuteurs pour faire mon métier et d'autres événements sont des gens qui ont 30 fois mon niveau d'études et qui ont 20 000 papiers de publications scientifiques derrière eux. C'est de l'exagération marseillaise. Hein. J'en ai pas 20 000. Voilà. Mais en tout cas, j'ai beaucoup d'attaches avec le milieu universitaire, mais c'était pas fait pour moi. Je pouvais pas, moi, aller habiter dans une chambre du Crous et rester 8 heures par jour dans un amphi à écouter de la pseudoscience, puisqu'en psychologie, on apprend surtout Freud au début, donc
En France,
de la
ouais,
psych.
c'est
Voilà. Donc en
l'épisode
France,
avec Clotilde. Ouais.
ouais. Donc c'est épouvantable. Ah tiens, il y a un épisode là-dessus. Mais écoute,
Ouais.
j'invite les gens à aller l'écouter parce que oui, effectivement, en France, il y a énormément de pseudosciences autour de ça. Ça m'a même valu des accrochages avec des profs. Et donc, en fait, très vite, au même moment, j'avais un spectacle en tête que j'avais commencé à écrire à la fin du lycée. Et avec mon meilleur ami de toujours, Antoine Arézu, pour résoudre certains problèmes. Enfin, à la base, j'ai pas commencé à rentrer dans du mélodramatique. D'artistes parisiens tourmentés en mode non, c'était d'abord une thérapie, une catharsis. Non, non, pas du tout. Ça va très bien, mais je veux dire, ce spectacle, j'avais quand même voulu le faire aussi pour parler de la mort, parler de mon rapport avec la mort, d'une certaine évolution. Puis il y a beaucoup de choses qui sont venues se greffer, le rapport à la médiumnité, au truc. Et puis finalement, tout a eu un sens naturel et évident. Il y a une grande inspiration anglo-saxonne qui est Derren Brown, qui est un mentaliste anglais, qui pour moi est le meilleur mentaliste du monde, et qui me donne envie de lui ressembler de temps en temps. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent clairement voir on va pas dire du plagiat, parce que ça n'en est pas, mais de l'inspiration et de la ressource. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a nourri un moteur créatif chez moi. Et donc fatalement, tout ça de fil en aiguille fait que les dates de spectacle ont commencé à bien se vendre au moment où j'étais à la faculté. Donc j'ai tout arrêté et j'ai dit bon, ben, je vais tenter d'en vivre. Et quelques années plus tard, enfin 1 an et demi plus tard, je rencontre mon producteur Amaury Vassili. Tous ensemble, enfin voilà, on a travaillé de sorte à ce que je puisse avoir une intermittence du spectacle, c'est-à-dire avoir vendu suffisamment de dates pour être reconnu, avoir un statut entre guillemets un peu d'artiste, même si c'est un statut très précaire et qui est toujours très compliqué pour entrer dans la vie active quand tu es jeune. Mais je peux m'enorgueillir aujourd'hui de n'avoir jamais eu une fiche de paye autre que celle du monde du spectacle. Et c'est le cas de peu d'artistes à mon âge quand même, d'avoir. Donc quand je regarde ce côté-là de la pièce, je me dis qu'effectivement j'ai bien bossé. C'est toujours quand on se regarde, on se désole. Quand on se compare, on se console. Et donc voilà, tout ça s'est fait un peu naturellement. En 2013, quand j'étais au lycée encore, et que je découvrais vraiment le terme mentaliste à travers effectivement la série télé, mais plein d'autres choses, et que je me dis, putain, c'est un truc qui rassemble tout ce que j'aime, quoi. C'est-à-dire la décortication du paranormal, les pseudosciences D'ailleurs, même dans la série, hein, Patrick Jane est un mentaliste qui s'est fait passer pour un médium fut un temps. Et puis là, donc ça, c'est très, très bien reproduit aussi. C'est très, très joli de voir comment ça a été amené dans le scénario. Donc, ouais, tout ça me botte vraiment bien. Ouais.
Ce qui
Voilà.
m'intéresse dans les gens que je rencontre, c'est leur choix. Et là, ce que je comprends dans ton parcours et dans tes choix, j'ai l'impression que ça a été très simple d'aller dans le spectacle et d'aller dans le mentalisme. Et t'as pas, parce que moi, là, si aujourd'hui, moi, tu sais, moi, j'ai un travail, je sais pas, dans le privé, on va dire banal, dans le marketing. Et j'ai super peur de me dire, je vais me lancer, je sais pas, dans l'écriture, parce que j'adore écrire et créer mon livre, tu vois. Ça me ferait trop peur. Et toi, j'ai l'impression que tu t'es lancé dans le spectacle comme ça va.
Oui, mais
Voilà.
il y a une, il y a, il y a, il y a une, l'Afghanistan, le pays de l'Afghanistan, à une époque, enfin le pays de l'Afghanistan, ça veut rien dire, mais l'Afghanistan, à une époque, avait la réputation d'être ce qu'on appelait le tombeau des empires. Et je sais plus, je crois que cette phrase, alors attention, hein, ça mérite vérification, ça mérite fact-checking là pour le coup, mais ce me semble que c'était Napoléon qui disait nous n'aurons jamais l'Afghanistan ou vous n'aurez jamais l'Afghanistan parce que l'Afghanistan n'a rien à perdre. Hein. C'est-à-dire que tout le monde a tenté d'envahir l'Afghanistan, personne n'y est arrivé. Et en fait, je pense que c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu n'as rien à perdre, et j'avais rien à perdre à 16, 17, 18 ans, ben, tu te lances et tu te dis. Par se perdre soi-même, ça peut, c'est le fameux, ça peut pas faire de mal, quoi. Et à un moment donné, j'avais pas peur de dilapider de l'argent que je n'avais pas, j'avais pas peur de perdre des choses que je n'avais pas. Donc, oui, je me suis lancé à fond et j'ai travaillé. C'était très dur, ça a été très très dur. J'ai travaillé, il y a des moments donné où je travaillais 72 heures par semaine sur de l'élaboration, de l'écriture, du travail, des répétitions, des. Voilà, il y a des moments où je ne savais pas comment payer mon loyer. D'ailleurs, il y a des moments aussi cette année, enfin, avec la Covid entre autres, mais il y a des moments où là, des fois, je ne sais pas comment payer mon loyer dans 2, 3 mois. Ouais. C'est une espèce d'instabilité avec laquelle il faut parfois vivre. Et c'est aussi complexe voilà, ces ascenseurs émotionnels, faut avoir les deux chevilles ancrées dans le sol, chose qu'en plus de ça, je n'ai pas toujours, ce qui fait que du coup, c'est. Des fois, j'ai des garde-fous, j'ai des gens autour de moi qui me disent là, tu es en train de faire une connerie, ou là, voilà, il y a mon meilleur ami, il y a ma femme, il y a pas mal de monde autour de moi qui m'aident énormément à garder les deux pieds sur terre. Oui.
Et si quelqu'un veut apprendre le mentalisme, comment il fait? Comment, par quoi tu commences? T'apprends le théâtre d'abord? T'apprends la magie? T'apprends quoi? Tu fais quoi?
Ben, ce qui est certain, c'est que je pense qu'il faudrait d'abord commencer par le théâtre, hein, puisque c'est la base de tout, même quand tu as un personnage public, finalement, au niveau de la représentation. Mais en fait, c'est toujours pareil, tout dépend ce que l'on veut faire. C'est-à-dire que c'est comme si je disais, si tu veux apprendre les voitures, tu vas apprendre quoi? Tu vas apprendre à les conduire, tu vas apprendre à les réparer, tu vas apprendre à les fabriquer, tu vas apprendre à les repeindre, à être ingénieur, à les vendre. Ça veut pas te dire grand-chose. Donc, apprendre le mentalisme, ça dépend ce que tu veux faire. Si ton objectif, c'est de simplifier ta vie quotidienne avec des techniques de mémoire pour retenir tes listes de courses, ben, tu as des très bons livres, Fabien Olicard, qui donne plein de techniques, des trucs comme ça. Si tu veux apprendre plutôt l'hypnose, là, je suis en train d'écrire un bouquin sur l'hypnose, mais tu as aussi des formats sur Internet. Mais pareil, l'hypnose, après, tu as une approche peut-être dans la thérapie qui peut être intéressante aussi. Tu peux permettre à tes amis de leur faire arrêter de fumer ou des choses comme ça, ou de leur faire perdre du poids. Moi, j'ai fait perdre du poids à des amis. Donc, c'est toujours pareil. C'est que tout dépend de ce qu'on entend par apprendre le mentalisme. Si l'objectif final est de monter sur scène, etc., je pense que oui, ça passe d'abord par l'illusionnisme et par le théâtre. Mais la difficulté est toujours la même. C'est que dans le cadre de la magie, je peux apprendre sans trop de difficulté des tours de magie aux gens parce qu'il existe 200 000 techniques. Là, je pourrais. Au bas mot, je pense t'en citer 200 sans réfléchir pour faire disparaître une carte ou retrouver une carte dans un paquet ou pour voilà. C'est-à-dire qu'il existe énormément de techniques pour faire finalement les mêmes effets, à savoir apparition, disparition, transformation, aller prédiction dans le cadre de la magie mentale et effectivement retrouver des cartes, faire disparaître des foulards, des choses comme ça. Il existe plein de techniques et en trahir une, c'est pas du tout trahir ce qu'est la magie. Et pareil pour les grandes illusions. En revanche, dans le mentalisme, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, il existe une multitude d'effets qui peuvent parfois tenir sur 5 à 6 rouages. C'est-à-dire que si je t'apprends à toi une vingtaine de techniques de mentalisme assez précises, et que tu les travailles assez bien chez toi, tu peux réaliser sans sourciller un répertoire professionnel pour animer une soirée. Alors, je te parle pas d'être infaillible et d'être le meilleur mentaliste de tous les temps, de faire des compétitions, de ça, mais en termes simplement de, voilà, même avec une grosse dizaine de techniques, tu peux émerveiller la galerie pendant 2h30 dans un cocktail ou quelque chose comme ça, sans trop de difficultés. Donc, c'est toujours très délicat d'expliquer ce que sont ces techniques-là et d'aller les dévoiler au grand public sans prendre de risque. C'est pour ça qu'on devient beaucoup plus facilement magicien que mentaliste. Mais comme je dis, le fait que moi, je suis mentaliste jeune, alors que c'est une discipline qui a plus de 100 ans, ça prouve que si on renouvelle les générations et qu'il y en a d'autres qui le deviennent, etc., c'est que en fait, elles sont accessibles, mine de rien. Donc, on a rien à trop se reprocher, quoi. On protège juste un peu le secret. C'est aussi ça où les gens, des fois, ont du mal à comprendre. Moi, des fois, on me reproche que le terme mentaliste soit galvaudé par des confrères et que du coup, ça donne une porte ouverte à l'absolu-science dans l'esprit critique. Et pour le coup, les mentalistes me reprochent d'être dans l'esprit critique parce que du coup, ça risque de trahir les secrets du mentalisme. Et ça, c'est très intéressant. C'est qu'encore une fois, je pense, mais ça, c'est comme les gens de gauche qui te disent de droite et les gens de droite qui te disent de gauche, alors que t'as les mêmes idées. C'est qu'il y a un moment donné, voilà, je pense que la nuance, la porte de la modération et de la nuance, c'est généralement un signe de bonne santé mentale et d'être sur le bon chemin. Donc, en l'occurrence, voilà, j'essaie de faire ce que j'aime de fort belle manière et dans la mesure de mes capacités, en tout cas. Et en fait, en réalité, tant pis si je suis un peu le cul entre deux chaises là-dessus. Mais ce qui est évident, c'est que ces techniques-là sont accessibles et peuvent être explicables et apprenables. Et donc, des fois, on les protège un petit peu en vendant des fausses techniques ou en mélangeant un peu de réalité et de fiction. Le but, c'est pas de bluffer les gens ou de s'auto-satisfaire dans une espèce de goitre d'ego où on se gargarise de notre succès. Regardez à quel point je suis plus intelligent que vous. Le but, c'est tout simplement d'éloigner la suspicion de certains rouages pour l'amener vers d'autres rouages qui sont, de par leur nature, inexplicables pour les gens.
Tout à l'heure, tu disais que c'était un peu la galère parce que bon, t'es quand même artiste, tu disais que t'es peut-être non essentiel à la société. Là, maintenant, tu dis que t'as le cul entre deux chaises, côté zététique et esprit critique, bah, t'es le mentaliste, donc c'est un peu la porte aussi aux pseudosciences, le mentalisme. Côté mentaliste, t'apportes l'esprit critique, donc bah, c'est relou pour les mentalistes. Et tu vois, on n'a pas encore parlé d'autre chose que le mentalisme que tu fais, mais je te vois comme un soldat toujours en train de te battre. Genre toujours en train de vouloir te battre contre quelque chose ou quelqu'un, j'en sais rien. C'est quoi là ton but au final? C'est quoi ton objectif dans la vie, si t'en as un, ou tes objectifs, je sais pas?
Je pense juste être heureux, vraiment. Je pense que je ne suis pas encore comme j'aimerais l'être aujourd'hui. Et je me bats pour ça. Oui, mais tu as raison. Mais oui, mais oui. Mais je écoute, le soldat, c'est vraiment ce qui me caractérise depuis le début. Il a fallu me battre dans ma famille étant petit, il a fallu me battre à l'école contre le harcèlement scolaire, il a fallu me battre pour entrer dans la vie active. Aujourd'hui, il me faut me battre pour conserver ce que j'ai déjà. C'est pas facile tous les jours. Et oui, il y a des moments donnés où j'ai l'impression d'avoir 83 ans, que ma carrière est bien, que j'écris mes mémoires et que j'arrête. Le problème, c'est que j'ai pas 83 ans. Très compliqué d'être fatigué à 25 ans, quoi. Donc oui, j'aimerais être plus apaisé. J'aimerais m'apaiser, j'aimerais me stabiliser dans tous les sens du terme, mentalement, physiquement, financièrement, émotionnellement. J'aimerais me sentir en sécurité, ouais, pour la première fois de ma vie.
Juste, je vais expliquer être heureux. Pourquoi je pense aussi aux soldats. C'est parce que moi, ce qui m'avait marqué, c'est ce que tu as fait avec Bruno. Donc, peut-être expliquer rapidement ce que tu as fait avec Bruno, parce qu'il y a certaines personnes qui ne doivent pas te connaître, qui vont te découvrir sur le podcast.
Je prends connaissance grâce à mon camarade qui a coécrit les vidéos avec moi, Victor Ressayer, qu'il existe un médium qui s'appelle Bruno Charvet. Je ne le connaissais pas. Et pourtant, j'avais beaucoup travaillé sur des médiums, mais plus des médiums sans notoriété, un petit peu dans des salons, tout ça, en écrivant mon spectacle. Et je prends connaissance de ce Bruno Charvet à un moment donné où il est en pleine explosion sur YouTube, où il prenait beaucoup d'abonnés. Grâce à mon camarade Victor Ressayer qui avait admiré ma vidéo sur Uri Geller et qui m'a dit ce serait cool que tu parles un peu de Bruno parce que c'est totalement dans tes cordes et que t'es the right man in the right place pour ça, quoi. Et donc lui, il avait fait un travail de petite main folle, il m'avait détecté plein de petites phrases interrogatives dans les vidéos et tout, donc c'était très 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 agréable de travailler avec lui parce que il avait déjà bien bien bossé le sujet en amont. Et ce qui s'est passé dans ces vidéos, c'est que C'est qu'en gros, on a critiqué le travail de M. Charvet, donc avec le prisme de la rationalité, en lui disant tout simplement, ce qui serait cool, c'est qu'il prouve. Il dit qu'il ne veut pas prouver, mais en fait, il cherche des preuves, puisqu'il a tout un protocole. Pour expliquer en gros ce qu'il fait, il fait du channeling dans la rue, c'est-à-dire qu'en gros, il prétend communiquer avec vos proches défunts en vous croisant, en vous touchant la main. Elle est autour de vous, elle vous parle, elle vous aime. J'entends un C, un P ou un U, et en fait, ça veut dire des choses. Et donc, il ne fait que de la reformulation en resservant des éléments que la personne lui donne subtilement sans qu'il s'en aperçoive lui-même, je pense. Je pense qu'il est honnête dans sa pratique, c'est ça le pire. J'ai douté pendant un temps. Je pense aussi qu'il n'est pas dupe, que le montage l'aide à couper les moments où il rate, etc. Donc, pour lui, il croit vraiment qu'il communique avec la mort, mais il sait aussi que son équipe de communication lui fait la part belle. Donc, c'est un peu un état entre les deux. C'est un charlatan de Schrödinger, quoi.
J'avais jamais entendu celle-là.
Voilà, ben je viens de l'inventer. Je vais la déposer à l'INPI, ouais, parce qu'elle est bien. Et donc, du coup, si tu veux, on a vu ça. Et moi, la question, enfin, moi, je reconnais ce que je fais sur scène. Je fais exactement ça sur scène. En plus de quelques apports par le mentalisme. Et en plus, comme moi, ma pratique, pour moi, elle est volontairement insolente. J'hésite pas à aller chercher, moi, sur les Facebook, en l'assumant, même en disant aux gens, faites sécuriser vos données, quoi. Parce que, donc, moi, ça ne me dérange même pas.
Et tu joues un rôle.
Parce que je fais du spectacle, absolument. Je joue un rôle. À la différence de Bruno, voilà.
Par le genre qui fait pleurer les gens, enfin, qui
tout à fait.
Des émotions assez fortes.
Tout à fait. Et donc après, c'est une heure de tournage pour 5 minutes de diffusion avec les meilleurs moments de la séance. Et donc, du coup, moi, ce qui s'est passé, c'est que on décrit dans une grande vidéo de 1h30 avec Victor Essayer l'intégralité de ces techniques, qui sont donc aussi les miennes. Je me tire en quelque sorte une balle dans le pied en faisant ça. Mais en lui disant à la fin, ce qui serait cool, c'est que tu arrives à le faire dans des conditions où moi, j'arrive pas à le faire. Parce que si tu arrives à le faire dans des conditions où moi, j'arrive pas à le faire, je doute pas de ton pouvoir, puisque tu, voilà. Le problème, c'est qu'il ne veut pas faire ça. Et la seule réponse qu'on a eue, c'est censure, parce qu'on utilisait des extraits de ses vidéos. Donc, c'était une censure déguisée. Hein. Il ne craignait pas du tout pour ses droits d'auteur. Donc, on a réussi à remettre la vidéo dans une nouvelle version améliorée sur la chaîne, qui a été laissée tranquille. Et au même moment, cette censure fait un petit buzz grâce au relais de quelques amis sceptiques qui m'aident à démarrer ma chaîne. Et au même moment, ce qui se passe, c'est qu'un homme appelé Bastien nous contacte. Et donc, ce Bastien nous dit « Voilà, Clément, ma grand-mère a commencé à y croire, elle regarde les vidéos de Bruno, etc. J'ai envie d'aller piéger Bruno pour prouver que on peut lui faire parler avec un faux mort. » Et donc, de là, je mets en contact le petit groupe, je commence à écrire le piège, je commence à dessiner les traits du personnage fictif, etc., qui prend les traits et l'apparence de ma meilleure amie, avec le prénom de Dana, comme Dana Scully, parce que la vérité est ailleurs. Et donc, voilà, donc X-Files, hein, pour ceux qui n'ont pas la référence. Et donc, du coup, on envoie Bastien chez Bruno, et Bruno parle pendant 40 minutes avec une morte qui n'a jamais existé, qui n'a jamais vécu. Donc, on révèle la supercherie. Et effectivement, il a perdu beaucoup de potentiel. Il prenait, je crois, quelque chose comme... Enfin, c'était très fulgurant. Il prenait, je crois, pas loin de 5 000, 6 000 abonnés par mois. Là, il n'en prend plus ce chiffre-là. Il faisait des pics à 150 000 vues. Aujourd'hui, il fait plus ces chiffres-là. Et moi, ce qui me faisait peur, c'est qu'il commençait à aller sur le plateau télé de Hanouna, qu'il commençait à se rapprocher des stars, qu'il était proche de la famille Castaldi, etc. Donc, du coup, je me suis dit... quand est-ce qu'on va avoir en gros le Bruno Show le samedi soir en deuxième partie de soirée façon John Edwards sur NBC quoi. Et ça moi ça m'a fait hérisser le poil, je me suis dit pas ça en France, pas ça chez nous. Et ce que j'ai voulu faire et que je pense avoir réussi avec brio, c'est associer entre guillemets comme un numéro de duettiste public mon visage et ma critique à son nom et à son visage. Et il a fait 2-3 médias depuis, et dans les 2-3 médias qu'il a fait, Click TV, un reportage sur TF1 dans 90 enquêtes, etc., on lui parle de mon piège ou on m'interview juste derrière. Donc, pour moi, c'est une réussite. Pas pour vendre mon spectacle et faire du marketing. Si jamais c'est un effet collatéral, je ne vais pas bouder, hein, je ne vais pas mentir. Mais en tout cas, ce qui est évident, c'est que l'objectif était d'empêcher... Parce qu'une fois que les gens ont vu ça, s'ils veulent continuer à y croire, ils font ce qu'ils veulent.
Ils ont toutes les informations maintenant.
Mais ils ont exactement toutes les cartes en main pour juger. Et si jamais vous préférez un mensonge qui rassure à une vérité crue, mais libre à vous, en fait, c'est pas grave.
Le passage qui m'a le plus interpellé, c'est quand tu vas vraiment dans la rue, je crois que c'est à Aix, et que tu fais exactement la même chose que lui. C'est... Tu montres que tu es capable toi aussi de faire
Et je le fais même mieux, parce que les gens qui viennent sont les gens qu'on a chopés dans la rue au hasard. qui se prêtent à l'exercice mais qui n'ont aucune attente, qui ne se sont pas préparés psychologiquement à parler de leur défunt, parce qu'ils préparent aussi les gens. Ils disent n'hésitez pas à vous souvenir de souvenirs, de machins dont vous devez entendre parler, etc. Donc là, en plus, on les prend dans la rue, on leur dit ça vous dirait de communiquer avec un mort ? Les mecs, ils étaient juste sur la route pour aller bosser. Donc, comme ils ont une caméra, ils ne s'y attendent pas, donc ils ne parlent pas. Ils ne sont pas dans l'attente, ils ne sont pas forcément croyants. J'ai pas l'aura de Bruno parce que les mecs le suivent depuis des mois avant de le voir. Donc il y a le côté aussi où ils le rencontrent en vrai, etc. Donc oui, non, c'était même, les conditions étaient bien plus difficiles que ce que fait Bruno. Et effectivement, oui, j'arrive à faire même mieux puisque je sors des prénoms du premier coup, là où lui, il tâtonne, etc. Et ça, après, c'est des rouages à moi. Mais dans l'absolu, c'est intéressant de constater. Alors. Là, encore une fois, il y a un biais de publication. C'est-à-dire qu'en gros, on a vraiment joué sur tous les biais. Si on avait mis le bêtisier de cette séquence, ça ne demandait pas ça non plus. Et en fait, c'est ça qui est très intéressant. Des fois, je suis totalement à côté. Il y a des moments qu'on n'a pas mis au montage parce que je suis totalement à côté.
Oui, c'est ça, bien sûr.
En fait, quand la personne ne réagit pas, elle réagit au bout de 5 minutes. Et en fait, voilà, j'ai vraiment. Le but, c'était quand les gens ont été impressionnés, même des sceptiques ont été impressionnés par cette démonstration, le but, c'est de dire bah, oui, mais. Quand j'ai dit qu'on faisait les mêmes rouages et tous les mêmes biais, ben c'est tous les mêmes biais, y compris le montage, la publication, etc.
Et t'expliques avant de faire ce passage, quand même, tu t'analyses Bruno pendant, je pense, 1h30. Donc, tu dis, t'expliques un peu tout ce que tu vas faire. Après, il y a des. Bon, j'imagine qu'il y a des probabilités.
Dans la première version, dans la seconde, j'ai mis la séquence dès le début, mais oui.
Ah, je sais plus quelle version j'ai vu, mais pour revenir en fait à la question d'avant, avant Bruno, je me dis, du coup, ben, tu veux être heureux, mais. Comment être heureux quand... moi, j'aime bien ce que tu fais, je trouve que c'est valeureux, mais
bien sûr.
Je trouve que ça n'est pas avec le fait de vouloir être heureux parce que tu te mets dans des galères.
Je ne sais pas, peut-être que oui, tu as raison, peut-être que c'est peut-être des petites décharges d'adrénaline. Il y en a qui font des sports extrêmes où ils risquent leur vie, tu vois. Il y en a un où, voilà, ils ont besoin de... Je ne sais pas, oui, effectivement. Mais tu sais, à l'âge que j'ai, à savoir tout juste 25 ans dans quelques mois, Tu évolues très vite, tu mûris très vite. Je pense que tout le monde l'a ressenti, ça, au passage à l'âge adulte. Et en fait, mine de rien, le piège avec Bruno, on en parle comme ça, mais ça date d'il y a 2 ans maintenant. Et je ne sais pas si en 2 ans, là, avec aujourd'hui la soif de validation que j'avais, qui est maintenant exaucée, puisque je sais qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui suivent mon travail, mes salles font complet en France, avec, entre guillemets, le besoin de validation qui est quasi rassasié, le besoin, alors après, c'est comme quand t'attaques la muscu, tu veux toujours plus, mais disons que je me suis un peu assagi aussi. Je sais pas si aujourd'hui je devais débunker un médium, je sais pas si je le referais avec le même thème, avec la même gouaille, avec la même. Voilà. Et de la même manière que si j'avais su que Mindlayer aurait fait 2 500 000 vues, je l'aurais peut-être pas fait. Parce qu'il y a un moment donné où c'est aussi particulier, c'est aussi. Bruno, ça a fait quand même pas mal de vues. Moi, j'ai eu peur. Des fois, je me suis dit, et si demain, il se bute, qu'est-ce qui se passe, quoi ? Tu vois, il y a des moments où tu te remets en cause, en question. Et en fait, avec le recul, il y a des choses que... J'assume tout, hein. J'assume tout ce que j'ai fait dans ma vie, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que des fois, tu te dis, vu la période, etc., je le referai peut-être pas comme ça. Voilà. Et là, d'ailleurs, j'ai enregistré aujourd'hui une vidéo... Sur une médium qui est passée dans l'émission Cauchemar en cuisine, et je parle beaucoup plus finalement de médiumnité dans son ensemble. Je fais pas d'attaque, je limite pas, je fais pas d'attaque personnelle plus, voilà, c'est pas, je veux dire, il y a pas d'attaque personnelle. Je pense qu'en fait la forme elle sert aussi le fond. Dans le cadre de Bruno, la forme sert aussi le fond, parce que je pense qu'il faut aussi des fois énergiser ces choses là la preuve étant que ma première vidéo, celle qui s'est faite censurer, était un exemple de prudence, était un exemple de précaution. Il n'y avait pas vraiment à 2-3 petites vacheries près, il n'y avait pas vraiment d'attaque personnelle, etc. Et en fait, dans la deuxième vidéo où on l'a un peu plus ridiculisé, où on est allé chez lui, où on l'a piégé, où il y a un générique avec sa tête à la place d'un Looney Tunes, etc., eh ben, on a eu des retours beaucoup plus positifs. Des gens qui sont déconvertis, des gens qui m'ont dit « J'ai eu tort de le croire, vous avez raison. Pardonnez-moi de vous avoir insulté lors de la première émission, etc. » Donc en fait, je pense aussi qu'il y a des moments où qui parle le plus fort se fait mieux entendre. C'est triste à dire, mais on est dans un monde de com, de communication. J'en parle dans mon livre « Les maîtres de l'imposture ». On est dans un monde, des fois, toujours disponible sur Amazon, on est dans un, dans un monde, c'est la promo gratuite sur le podcast. Mais voilà, on est dans un monde parfois où effectivement le terreau est très fertile. N'importe qui a une bonne communication aujourd'hui peut faire avaler plus ou moins n'importe quoi. Et ça, c'est à cause de la surinformation. Et je pense qu'effectivement, Bruno a une com' impeccable dans ce qu'il fait. Donc lui, il passe pour le gentil avec une barbe de Père Noël qui fait pleurer les gens et qui les serre dans les bras très fort. Et moi, je passe pour le petit gars avec un bouc démoniaque des costards italiens tape à l'œil qui vocifère et qui parle avec les mains, avec un accent marseillais qui ressort de temps en temps. Donc je passe pour le méchant automatiquement, en fait. Pour le mec qui est très à l'aise, qui sait tout sur tout à 24 ans, etc. Et puis c'est toujours très, très déstabilisant aussi pour des gens qui ont 40, 50 ans, qui voient mes vidéos, d'apprendre des choses de la part d'un mec comme moi. Alors il y a deux manières de le prendre. Il y a la manière, oh, vous redonnez espoir à la jeunesse, j'en reçois beaucoup ce genre de commentaires. Et puis il y a la manière en mode, ouais, génération cul sur une chaise, vous n'avez rien expérimenté de la vie. Donc en fait, c'est en fonction de ce que je leur dis, ça leur plaît ou pas. Mais voilà, donc avec le recul, peut-être que je ne l'aurais pas fait comme ça. Mais oui, pour revenir à ce que tu disais, le soldat, oui, on y est, oui, je me bats beaucoup, oui, dans ma vie. Je me bats peut-être contre parfois des moulins à vent, des épouvantails. Bon, j'essaie de mêler l'utile à l'agréable, hein, mais la preuve est, en tout cas, que l'esprit critique, plus que jamais, on en a besoin. Moi, j'ai fait Bruno et j'ai écrit sur les imposteurs avant la Covid. Aujourd'hui, avec la Covid, si tu réfléchis, plus que jamais, on a besoin de ça.
Bah, j'ai l'impression que la
Plus que
COVID,
jamais.
en fait, ça a amené le sujet de la science sur les chaînes télé BFM et compagnie. Tout le monde a commencé à parler de science. On a vu la fissure qu'il y a dans la société et les
Ouais,
problématiques avec la télé, les problématiques avec les gens qui
bien
savent pas ce que c'est
sûr.
que la science.
Bien sûr. La science, surtout la méthode scientifique. C'est-à-dire que quand tu prends. Moi, j'ai écrit une conférence sur le sujet qui s'appelle Virus informatif, que je vais tenter de faire tourner là. C'est un des projets de 2022 dans des villes universitaires. Mais qui sont les enseignements et les leçons à tirer de les enseignements et les leçons à tirer de la gestion médiatique de la Covid? Le phénomène Raoult, comment, pour qui, pourquoi il a été créé, les intérêts qu'il y a derrière. Moi, je vois aujourd'hui, effectivement, c'est Géraldine Vosner qui avait cette image dans Fake Up, un documentaire que j'ai fait au sujet du complotisme autour de la Covid-19, qui disait, il y a aujourd'hui une gestion à la manière d'un match de catch. C'est-à-dire qu'on va prendre un pour, un contre, on les fait se battre, et à la fin, le débat a avancé. Non. Parce que quand Madame Trucmuche ou Monsieur Machin allume CNews ou BFM, et que d'un côté, ben, vous avez Machin Chouette de l'IHU Bidule qui est pour un tel remède, et Trucmuche Machin Chouette du CHU de Pétaouchnok qui lui est contre ce même remède, allez-y débattez. Ah ben on a des études. Oui mais non, vous n'avez pas des études, elles sont biaisées. Oui mais les vôtres, elles mentent. Oui mais le scandale du Lancet. Oui mais vous êtes financé. Oui voilà. Et à la fin, c'est le flou total. Sauf qu'en réalité, du côté du CHU Machin qui est contre, du docteur qui est contre, ils sont 97% des scientifiques à appliquer une méthodologie, du côté de l'IHU qui est pour, ils sont 3%, et ils gueulent plus fort, et ils sont plus accessibles, et ils sont plus avenants, et ils ont des bacs tête de mort, des cheveux longs, et ils parlent fort. Et donc, en fait, si tu veux, encore une fois, la communication, la surinformation, et du coup, fatalement, aujourd'hui, moi, quand je vais voir ma grand-mère et que je lui dis, mais tu te rends compte que Didier Raoult dit de grosses conneries, elle me dit, mais toi, t'es pas savant, lui, il est savant. Voilà, ça s'arrête là pour les gens. Ils ont une blouse blanche, ils disent des choses vraies. Donc, en fait, très, très rapidement, on donne un spectacle qui est soit c'est des scientifiques donc ils ont raison, et une fois qu'on a fait admettre aux gens, ben non, regardez, il y a d'autres scientifiques qui disent le contraire, ils donnent à nouveau, enfin ça provoque à nouveau un effet boule de neige néfaste qui est oui, mais du coup la science est divisée, donc il n'y a pas de consensus scientifique, donc en fait ils pensent tous un peu n'importe quoi, donc en fait personne n'a raison, donc on ne sait plus qui croire, etc. Donc en fait, quand le journalisme scientifique, qui est une calamité en France, donne à voir un spectacle navrant et donne derrière à expliquer avec des experts en plateau qui sont des experts de canapé à quel point.
J'ai quand même vu Julie
C'est.
Lescaut donner son avis sur le
Oui, voilà,
vaccin.
oui, mais non, mais voilà, non, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, organisons un grand débat contre la Covid avec un chanteur, un humoriste vulgaire et une comédienne d'une série de merde sur TF1 qui sont tous les trois morts avec le twist, allez-y. Voilà, et on aura vraiment, je pense, une bonne synthèse globale de la pointe des données scientifiques. Enfin, c'est délirant. Et si vous voulez, quand on fait ça, si tu veux, quand on, juste si vous voulez pour tes auditeurs, quand on donne à voir ce spectacle navrant de la science, il est évident que les gens ne savent pas ni ce que c'est que la science, ni comment elle peut marcher, ni comment la méthodologie scientifique a une place majeure à prendre là-dedans, mais jusque dans les plus grands médias, parce qu'on parle souvent des sites de réinformation qui sont des sites de désinformation en réalité, mais Le Monde, qui est quand même un grand quotidien, enfin, qui est pour moi une des références journalistiques, Le Monde a des des journalistes scientifiques, je pense notamment à Stéphane Foucart, qui raconte de la merde sur les OGM, sur les pesticides, etc., depuis des années, des années et des années. Et on est dans la déraison, on est dans la croyance, on est dans la pseudo-science. On va lire, c'est formidable, on pourra en 2050 faire du 100% bio. En dessous, tu as un article de Monsieur Foucart, et en dessous, tu as lien vers l'étude, avec la source de l'étude. Alors toi, t'es pas trop con, tu vas sur la source de l'étude, et si tu sais parler anglais, tu t'aperçois que l'étude, elle dit totalement l'inverse de l'article. Ensuite, tu vas taper cette étude sur Google, et tu vas trouver d'autres sites d'information avec un quotidien canadien, un quotidien américain, qui reprennent cette même étude, mais qui, eux, disent totalement l'inverse aussi de l'article du Monde. Et donc, ça, c'est pas du journalisme scientifique. C'est du journalisme pseudo-scientifique. Et on a aujourd'hui, et la pseudo-science, ce n'est pas une petite science, c'est l'inverse de la science. Et aujourd'hui, on a une information scientifique en France qui est au minimum, au mieux passable, au pire calamiteuse. Je dis passable parce qu'il y a quand même le magazine de la santé, il y a quand même deux, trois bonnes choses quand même qui se font de temps en temps. Il y a un reportage sur l'homéopathie qui va accueillir Henri Brock en son sein, etc. Mais à la fin, on a l'impression que ces gens-là, ils veulent même pas froisser ceux qui achètent du bois rond. Tu vois, on a l'impression qu'à la fin, on dit bon, ben, on vous laisse faire votre propre avis sur la question, alors que non, je pense qu'il y a aussi des moments où il faut avoir des opinions tranchées sur les sujets. Aujourd'hui, il y a consensus scientifique pour dire que l'homéopathie n'a ni plus ni moins d'effet qu'un verre d'eau. Et ça, il faut le prendre en compte. Donc, en fait, d'une manière globale et générale, je pense que faire œuvre d'information scientifique aujourd'hui, c'est un sport de combat, que ça justifie aussi parfois mon aspect de soldat. Tu vois, c'est peut-être pas un soldat militaire, mais c'est un mec qui fait des arts martiaux, en tout cas. Et à côté de ça, la forme est parfois au service du fond. Je prends souvent cet exemple, j'avais pris cet exemple aussi en table ronde au REC. Jérémy Ferrari a fait un sketch sur l'homéopathie qui est hilarant. Ce sketch n'est pas bienveillant. Il est même un peu insultant, un peu méprisant envers ceux qui consomment de l'homéopathie, envers ceux qui la fabriquent, envers les médecins. En plus, il y a des termes vraiment grossiers, dégueulasses, d'humour noir. Moi, ça me tue de rire. Hein. J'adore la forme, j'adore le fond de ce que fait Jérémy Ferrari, j'adore cet homme. Et ce sketch a beaucoup mieux marché sur des gens autour de moi, notamment ma grand-mère. Qui prennent de l'homéopathie. Ma grand-mère prend de l'homéopathie. Ce sketch a beaucoup mieux marché pour la faire réfléchir que des reportages très longs, très scientifiques, qui sont beaucoup plus polis et qui finalement expriment beaucoup moins les idées. Et je pense que parfois, une forme forte est nécessaire à un fond fort. Et aujourd'hui, pour moi, on est à l'aube de la première guerre mondiale de l'information. On est à l'aube où, je pense, c'est au pifomètre, hein, tout ce que je vais dire, peut-être qu'on va me dire que je suis ultra alarmiste. Mais je pense qu'un Français sur quatre aujourd'hui est un minimum complotiste. Et si on baisse le curseur de zone grise, parce que le complotisme, ça va de la maman qui est inquiète ou du papa qui est inquiet pour ses enfants avec un nouveau vaccin, jusqu'à la Terre est plate, on nous cache tout et ils violent des enfants dans des caves. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même un prisme là entre le 11 septembre, c'est les Juifs, et on ne sait pas trop ce qu'il y a dans les vaccins. Quand même un énorme prisme. Mais ça reste la même chose. Et aujourd'hui, si tu veux perdre foi en l'humanité, tu vas sur n'importe quelle vidéo de chez Hanouna où il y a Fabrice Divizio, une vidéo de Carl Zéro où il explique en gros que la franc-maçonnerie, des réseaux pédophiles et tout. Tu déroules les commentaires et tu t'aperçois que les 9 dixièmes des commentaires, 90% des commentaires, donnent raison et donnent la part belle au populisme. C'est une surreprésentation monstrueuse. Et il y a de toute classe, il y a de tout âge, il y a de tout sexe, il y a de toutes origines, il y a de tout niveau d'éducation là-dedans. Donc, je pense qu'il n'y a pas deux camps. Il n'y a pas les complotistes et les gens qui ont raison. Il y a des frontières très floues et ceux qui sont sceptiques de certaines choses sont pas sceptiques d'autres choses. Les gens qui sont sceptiques des vaccins sont peut-être pas sceptiques des huiles essentielles. Et les gens qui sont sceptiques des huiles essentielles, la question c'est comment on fonde notre croyance? Quel est le prisme méthodologique qui a fait ses preuves? Quel est celui qui a fait réduire la mortalité et augmenter l'espérance de vie de 50 ans depuis qu'on l'emploie, tu vois, entre le XVIIe siècle et aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous a permis d'aller sur la Lune et qu'est-ce qui a causé du sang? Tu vois, la religion a causé du sang dans l'histoire, la science nous a permis d'aller sur la Lune. Tu vois? Donc, il faut mettre un petit peu tout ça dans le panier à salade, tasser, essorer et voir ce qu'il en sort. Et ça, c'est un travail de tous les jours à faire à l'école primaire, à faire à la télévision, à faire sur le service public, à faire dans les médias. Et ce n'est pas fait aujourd'hui. Et les vulgarisateurs sont des petites mains Et le combat, on est en train de le perdre. Je pense qu'on est en train, avec la Covid-19, de perdre une bataille de la raison. Parce que les Français aujourd'hui se vaccinent parce qu'ils en sont obligés, pas parce qu'ils ont compris. C'est-à-dire que quand les gens disent ceux qui se sont vaccinés sont des moutons, il y a une partie, c'est vrai. Il y a une partie qui se sont vaccinés parce que le gouvernement l'a dit. Il y a une partie qui ne sait pas ce qu'il y a dans le vaccin et qui ne comprend pas pourquoi c'est bénéfique pour sa santé. Et il y a une partie qui le fait parce qu'elle ne peut plus travailler ou parce qu'elle ne peut plus sortir ou par égoïsme. Il y a une partie qui le fait parce qu'elle y est contrainte et forcée. Et ça, c'est un échec. Lorsque le gouvernement va se réjouir que 80% des Français, 85-90% seront vaccinés, en fait, nous, on va voir ça comme un échec. Parce que sur ces 90%, il n'y a pas 90% de gens qui ont compris que le vaccin était bénéfique, pas dangereux, qu'on avait du recul, etc.
À la télé ou quand on regarde une émission télé, cognitivement, c'est vraiment attirant. C'est vraiment, tu as envie d'écouter, il y a du débat, il y a du sang, il y a de l'engueulade, il y a deux personnes qui sont en désaccord.
Bien sûr,
ça attire ça attire vraiment beaucoup. Versus les promoteurs de l'esprit critique, on va dire ça comme ça, bah parfois c'est des vidéos un peu plus compliquées à comprendre, ça apparaît pas sur les grands médias, cognitivement c'est pas forcément très attirant pour tout le monde. Donc il y a un problème avec l'information et notre cerveau en fait qui va être attiré plus vers Hanouna avec Divisio, là où je sais pas comment il s'appelle, qui va parler plus fort et qui va créer le débat et qui va être drôle pour certains. Et donc, les gens ont plus tendance à le croire, lui, parce que cognitivement, bah, l'information va avoir plus de valeur que l'information du promoteur de l'esprit critique. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire.
Je comprends totalement, mais je pense qu'en fait, tout simplement parce que l'esprit critique est une discipline inconfortable. Encore une fois, si je voulais être heureux, je deviendrais gourou. La réalité, elle est là. Regarde, par exemple, il faut accepter déjà la première étape, c'est de ne pas avoir un avis sur tout. Je n'ai aucun avis autre qu'un avis le plus objectif possible et le plus rationnel possible. Si tu me dis, par exemple, ce que je pense de la candidature de Zemmour, l'éventuelle candidature de Zemmour à la présidentielle, pour moi, c'est un reflet d'une époque. C'est une évidence face à la montée des populismes de partout en Occident. On dit que les Français font ce que font les Américains avec 7-8 ans de retard. Ils ont eu Trump, on a Zemmour. Et moi, c'est pas du tout la même chose, bien sûr, mais voilà, je peux l'analyser. Mais est-ce que j'ai un avis dessus? Non. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Je pense que moi, je ne voterai pas pour lui, mais d'ailleurs, je ne vote pas, mais je pense que c'est légitime, que c'est logique. Je n'ai pas d'autre avis rationnel que ça, je n'ai pas d'avis à donner aux gens. Est-ce que c'est bien de voter Zemmour? Est-ce que c'est mal de voter Zemmour? Les gens se font leur avis et sans doute qu'ils s'y retrouvent dans ce qu'il dit. Je n'ai pas d'avis sur les migrants, je n'ai pas d'avis sur l'islam en France, je n'ai pas d'avis sur Et du coup, il y a des gens qui s'offusquent de ça. C'est merveilleux, Clément, mon Dieu, mais on ne te voit pas lutter contre des théories du complot type grand remplacement. Mais je n'ai pas creusé les sujets, c'est des sujets qui me désintéressent au plus haut point déjà. Et premièrement, il y a ça aussi, hein, c'est-à-dire que des fois, je n'ai pas envie de muser cognitivement. C'est-à-dire que moi, à la base, mon métier, c'est de retrouver des cartes dans un jeu de cartes quand même. Et ensuite, si tu veux, juger les gens sur des matières d'opinion, c'est compliqué. Et en ce qui me concerne, je ne suis pas la police de la pensée, là où certains veulent l'être. Avec l'esprit critique. Donc, on perd aussi les combats parce que certains utilisent mal l'esprit critique et deviennent une espèce de police de la pensée, de ce qui est acceptable de penser ou pas. Et si tu ne penses pas comme eux, si tu n'acceptes pas leurs mots, leur vocabulaire, leurs idées, leurs dogmes, en un sens, leurs dogmes, tu es soit tu n'as pas compris, parce que comme eux, ils pensent au bien commun, ils sont gentils, donc ils sont légitimes. Donc, en fait, eux, ils sont gentils pour l'humanité. Donc, si tu n'es pas d'accord avec eux, soit tu n'as pas compris pourquoi eux, ils sont bien et pourquoi toi, tu ne fais pas les choses bien, soit tu es méchant, parce que du coup, tu ne veux pas t'adapter, tu ne veux pas faire les choses bien comme eux. Donc, soit tu es ignorant, soit tu es malfaisant. Donc, tu es une cible à abattre. Ça, pour moi, c'est un problème. C'est un autre problème aujourd'hui qu'on traverse dans le monde. Il y en a plein hein, de problèmes qui pourraient se résoudre avec un peu d'esprit critique et de rationnel. Je prends beaucoup de distanciation vis-à-vis de tout ça. Je passe pas plus de 10 minutes par jour sur Twitter. Je prends vraiment beaucoup de distanciation avec énormément de sujets de société. Ça m'intéresse très peu. Moi, je veux m'occuper de gagner un peu plus d'argent, de faire à manger des bons petits plats pour moi, mes proches. Parce que j'adore cuisiner et dormir et me lever, être heureux de mon métier, ce qui n'est pas tous les jours le cas et ce qui est déjà une tannée. Et je veux juste essayer de faire ce qui me plaît et qu'on ne m'impose pas mes sujets et tout ça. Mais voilà, donc en gros, dans l'idée, pour reprendre ce que tu disais, la gymnastique cérébrale de l'esprit critique consiste déjà à admettre qu'on n'a pas un avis sur tout, qu'on n'est pas compétent pour juger de tout, en toute matière, tout le temps, à toute heure. Or, BFM TV nous fait juger de tout, tout le temps, à toute heure. Donnez votre avis sur le hashtag Journal de 15 heures.
Envoyez un ou deux.
Qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. Donnez votre avis, l'avis de Micheline, 43 ans, hypnothérapeute en libéral qui ne travaille pas le mercredi et qui dit « Ah, mais je suis d'accord, pour moi, Castex, c'est pas un bon Premier ministre. » Qu'est-ce qu'on s'en branle, quoi. Enfin, pardon, mais donnez votre avis au hashtag journal de 15 heures sur BFM, quoi. C'est scandaleux pour moi, ça, c'est pas de l'info. Et aujourd'hui, effectivement, cognitivement, c'est stimulant. Mais pour moi, c'est une société du paraître. C'est une société du paraître qui prend le dessus sur l'être. Et c'est une société qui a des mots... En termes de... Allumer une chaîne d'info, je prends toujours l'exemple d'une civilisation qui aurait bien évolué dans un cadre utopique parfait. Pour elle, je pense qu'allumer une chaîne d'info, ce serait une symptomatologie crasse et évidente d'une société malade. Tu vois? Et c'est pas dit que dans 200 ans, gageons que le réchauffement climatique, on arrive à le contourner, gageons que plein de choses, mais si la société évolue bien, soyons optimistes, et si dans 200 ans, on arrive à atteindre peut-être une première partie de l'idéal d'égalité, de liberté qui nous rassemble tous, c'est pas dit qu'on ne revoit pas la candidature de Zemmour aujourd'hui, comme, je sais pas, comme on voit aujourd'hui avec honte l'esclavagisme, les croisades, qu'on relise certains aujourd'hui essais philosophiques, comme, tu vois, qu'on voit les expériences du docteur Raoult, comme on aurait vu les dissections du 19e siècle. Enfin, tu vois, je me demande, en fait, quand on aura le recul de nous juger aujourd'hui avec les yeux d'un peuple qui aura évolué et qui aura encore plus de connaissances qu'aujourd'hui, comment on se verra? Je pense qu'on ne serait pas forcément fier de ce dont on est fier aujourd'hui et inversement. Donc bon, c'est peut-être que j'ai une grosse connerie là. Hein, encore une fois, c'est un avis au doigt mouillé, improvisé sur le moment. J'ai pas prévu de parler de ça. Mais peut-être que dans 2 heures, je vais réfléchir. Je me dis, non, on va peut-être dire une connerie. Mais en tout cas... C'est pas déconnant de penser ça. En tout cas, ce qui est évident, c'est que oui, l'hygiène mentale, c'est d'abord une prise de conscience individuelle de tous les jours. De tous les jours. La société est en surpoids, elle est en obésité morbide, intellectuelle, on va dire, en termes de... Alors, t'as ceux qui le portent bien, t'as ceux qui le portent mal, t'as ceux qui en font des maladies, on va dire que ça, c'est les complotistes les plus extrêmes, t'as ceux qui tentent de tout faire pour faire des régimes et faire du sport et ça marche pas, et t'as ceux qui ont la méthode et que ça marche, et t'en as sur qui ça marche mieux que d'autres, et t'en as sur qui donnent des conseils alors qu'eux-mêmes sont en surpoids. T'as plein de gens. Voilà, c'est en gros, je prends cet exemple-là, hein, qui n'est pas du tout grossophobe ou quoi, mais qui est une métaphore. Et dans l'idée... Même si ça vient de l'État qui met des Nutri-Score sur les paquets avec les systèmes de check news de Libération ou des cellules de fact-checking, des cellules Pharos, des machins, cyberharcèlement, police d'Internet, tout ce que tu veux, même si on mettait en haut du site de François l'information disponible ci-dessous est peut-être fausse, tu vois, même si on obligeait les sites à mettre ce genre de bandeau, genre vous n'êtes pas validé par le gouvernement, même si on crée un comité de censure, en fait, l'hygiène mentale est une prise de conscience individuelle, exactement comme le poids, exactement comme tout dans la vie. Et donc, il y a un moment donné où, en fait, le sentiment de liberté qu'on acquiert avec l'esprit critique, on le perd très vite lorsqu'on s'aperçoit de l'hygiène quotidienne que ça nous demande, d'écouter davantage les informations qui ne nous font pas plaisir que celles qui nous font plaisir et de vérifier doublement celles qui ne nous font pas plaisir que celles qui nous font plaisir.
Justement,
oui, c'est un parcours du combattant, tu parlais du soldat tout à l'heure, de tous les jours. Hein.
Toi, tu as fait comment pour... Parce que, en fait, tu n'as pas de parcours universitaire en sciences. Tu n'as pas du tout ce background-là. Tu as appris par toi-même pour ton métier. Enfin, pas que pour ton métier. Je pense que ça te plaisait aussi. Ça t'a servi pour ton métier.
Bien sûr, ça me plaisait. Ouais.
Comment tu as fait pour développer ton esprit critique? Par quoi tu as commencé? Comment tu fais encore pour te battre un peu contre tes biais?
Moi, je suis rentré par la grande porte. Je suis rentré dans la lutte contre le paranormal de par mon métier, de par mes attraits. Quand j'étais petit, j'étais fan d'Harry Potter. Je regardais Charmed de temps en temps sur M6 quand ça passait. Et ça, c'est très honteux, par exemple. Je pense que voilà, la série a très mal vieilli. Et, ça, je ne suis pas fier de toute ma vie non plus. Mais en tout cas, il y avait un attrait pour les séries B autour du démonisme, de la nécromancie, des contes et des légendes autour des vampires, de la bête du Gévaudan. Je me suis toujours fasciné pour tout ce qui était occultiste surnaturel. Et tu as deux manières de le prendre. Soit tu t'équipes d'un détecteur EMF... qui détecte les compteurs Linky plus que les esprits, et tu vas dans des villas abandonnées parce que tu as des problèmes de succession familiale, mais le voisin dit que peut-être on entendait des rires de petites filles sur le toit. Alors d'accord, ok. Et donc tu y vas avec ton équipe de nuit, tu fais des vidéos flippantes où il se passe rien, parce qu'il se passe rien. Hein. Il y a trois poussières en surbrillance sur une caméra infrarouge et c'est marre. Donc soit tu fais ça et tu gagnes ta vie comme ça, tu fais ce que tu veux. Soit alors tu peux le prendre d'une manière, comment on peut en tirer du savoir, de la connaissance, comment on peut éveiller peut-être les autres sur des problématiques plus quotidiennes, plus de la vie quotidienne, etc. Et comment on peut davantage évaluer la qualité épistémique des choses qui nous sont rapportées quotidiennement. Et moi, ça a été mon choix. Donc, je suis rentré dans tout ça par la grande porte. Et après, les outils que tu apprends là, tu les perfectionnes au fil du temps. Voilà. C'est une étape après l'autre.
T'as quoi? T'as lu un des livres? T'as regardé des
Oui,
vidéos?
j'ai lu les livres de Henri Brock qui sont très très bons, les vidéos de hygiène mentale qui sont évidemment la base. Hygiène mentale, même les gens qui ne l'aiment pas personnellement, moi j'adore hein, Christophe Michel personnellement, on a pu enfin se rencontrer en vrai avec un très bon souvenir pour moi de la nuit zététique du 11 septembre à Nancy. J'aime beaucoup humainement la personne. Et si tu veux, Christophe Michel, typiquement, même les gens qui ne l'apprécient pas humainement, ça arrive, hein, tu peux pas coller avec tout le monde, reconnaissent que son travail est exceptionnel et d'utilité publique. Donc la chaîne Hygiène Mentale, Mister Sam, que j'aime beaucoup aussi, qui est devenu lui vraiment un frère de cœur. Voilà, et puis c'est ce genre de petites expériences comme le crop circle d'AstronoGeek, comme mon piège de Bruno Charvet, et comme d'autres choses que l'on va faire, ou même G-Milgram, là, qui pour moi est devenu la véritable relève. G-Milgram qui a piégé aussi des sites de vente d'objets ésotériques, qui est pour moi quelqu'un de très talentueux de la nouvelle scène du YouTube vulgarisateur. Tous ces gens-là, par des études pratiques, par des études de cas, par des petits grains de sable aux grandes dunes donnent ta donnée à réfléchir. Voilà.
Quand tu parles, j'ai l'impression presque que tu sais, c'est un podcast à la base pour parler de métier. J'ai l'impression que toi, tu n'as pas vraiment de métier, que en fait, tu as une ambition. Bon, tu dis vouloir être heureux, et tu as une ambition en fait de promoteur de l'esprit critique. Donc en fait, c'est ça ton métier, je pense, promoteur de l'esprit critique sous toutes ses formes.
Oui, on peut dire ça. Je suis artiste avant tout. C'est compliqué parce que des fois, je me dis, est-ce que je me perds pas dans un sujet sans trop avoir l'autre? Ma femme est comédienne et j'ai très, 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 très envie d'écrire des courts-métrages avec et pour elle. J'ai très envie de lui donner des rôles sublimes. J'ai très envie de me remettre à la réalisation derrière la caméra pour faire des choses bien mieux que ce que je faisais durant mon adolescence. Bien meilleur, pardon. J'ai très envie d'écrire autre chose que peut-être un roman, j'en sais rien, et même de chanter, pourquoi pas, je suis vraiment artiste avant d'être. Et des fois, je me dis, est-ce que je me perds pas trop dans quelque chose au détriment de l'autre? Je préfère voir ça comme les deux faces d'une même pièce avec toujours effectivement un prisme du savoir, parce que on peut faire du beau gratuitement et on peut faire du beau qui véhicule un propos. Et moi, par exemple, je suis fan de spectacles comme l'Exoconférence, tu vois, ou Comme un joie demeure de Bach. Qui nous apprennent des choses, ces spectacles de Alexandre Astier, qui nous apprennent des choses sur la musique, sur la vie au temps de Jean-Sébastien Bach, sa vie à lui notamment, ce genre de choses. Et c'est un peu l'ambition que je nourris, c'est-à-dire que mon spectacle, c'est à la fois du beau et de l'artistique, tout en ayant un véritable fond et un véritable propos. Et moi, quand les gens ne me parlent pas d'à quel point je les ai bluffés, mais quand ils me parlent de l'histoire, quand ils me sortent et qu'ils me disent on en ressort changé, on a envie de mieux protéger ses données, ou alors que c'est très très implicite dans le spectacle, que tout ce qui est explicite est justement la démonstration de mentalisme, le côté show-off, le côté bluffant. Quand on travaille sur des choses plus artistiques, qui disséminent subtilement un propos et qu'on me parle du propos plus que de la chose artistique, pour moi, il y a une véritable sensation de victoire, oui. Ça veut dire que bordel, non seulement c'était beau, mais c'était compréhensible. Et je pense que oui, je pense que mon métier, c'est Clément Fraise et j'essaie de le faire du mieux que je peux. Donc effectivement, mentaliste, parce que c'est ce qui est écrit sur ma carte de visite, c'est ma particularité qui me différencie d'autres comédiens, c'est la plus-value de ce que je vends lorsque je fais des conférences, lorsque je fais des séminaires d'entreprise, lorsque je fais des spectacles ou des vidéos sur Internet. Par rapport à quelqu'un qui va juste critiquer un médium, je vais reproduire ce que fait le médium. Donc voilà, c'est l'art et la science. Et c'est mon ami Vlad Tapas qui a fait cette très belle critique sur le spectacle que j'ai mis dans mon dossier de presse. Donc Vlad de la Tronche en Biais qui a dit cette phrase magnifique. Clément Fraise nous rappelle de fort belle manière que rien ne vaut l'art et la science marchant main dans la main. Ou un truc à peu près comme ça. Et ça m'a vraiment touché. Surtout de la part de quelqu'un comme lui, qui est musicologue, qui est un musicien, un compositeur très talentueux, qui a une sensibilité artistique accrue. Que quelqu'un comme ça puisse faire au lendemain d'une date, qui en plus était une date particulière, parce que c'était la date c'était une date à Toulouse où c'était un gros centre d'esprit critique, ce qui fait que du coup, ça faisait 2 ans que je ne l'avais pas joué, c'était ma première date de tournée, il y avait de l'improvisation avec les gens dans le public, parce que tout le monde était sceptique, donc personne ne croyait à ma démonstration de médiumnité, c'est pas un public mitigé, c'était très amusant. Donc effectivement, tout ça fait qu'en fin de compte, je suis content, je suis heureux et content d'avoir ces retours-là de la part de Vled et de mes confrères, voilà, bref.
Et tu parles de vouloir faire un bel art. J'ai l'impression que l'art, justement, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de rigueur comme il y a en science. Comment on peut être rigoureux et dire ça c'est beau ce que je veux faire? Comment on sait quand quelque chose est beau pour les autres? Moi qui aime la rigueur, mais avec l'art, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de rigueur, donc j'ai du mal à me lancer dedans, tu vois.
Oui, il y a même de l'imposture aussi dans l'art. Hein. J'ai toujours été très esthète dans ce que je faisais, aussi bien au niveau des vêtements que de la cuisine, donc fatalement aussi des goûts de luxe quand tu ne viens pas d'une société qui a l'habitude du luxe, donc c'est des fois un peu compliqué de coller les deux. Mais non, j'ai toujours été très esthète dans tout ce que je faisais, et j'ai toujours trouvé de la noblesse. Et la noblesse est un caractère qui manque cruellement aux hommes d'aujourd'hui, selon moi. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose de... Moi, je ne pense pas en termes de « j'aime, j'aime pas », de « ça me fait du bien, ça me fait pas du bien », je pense en termes de « c'est beau, c'est pas beau ». Et de manière kantienne, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'Emmanuel Kant dit que le beau est objectif et que le plaisant, lui, est subjectif. Et le beau est objectif, alors, bien évidemment, au gré de normes sociales, d'une époque. La beauté au XVIIe n'est pas la même qu'aujourd'hui. Mais en tout cas, tenter d'apporter de l'esthétisme dans l'art est quelque chose de, pour moi, primordial. Quand je dis que c'est beau, que ça dégage des émotions pures, que les gens oublient l'aspect de mise en scène, que l'on n'ait pas l'impression de voir quelque chose sur scène, mais de vivre une expérience qui, à la fin... Il faut qu'à la fin, les gens ne se rappellent pas de la couleur du strapontin. Il faut que les gens, à la fin, n'aient pas vu la rampe de projecteur au-dessus de moi. Il faut qu'à la fin, les gens n'aient pas écouté la bande originale, mais l'aient entendu mélangée à ma voix dans une espèce d'harmonie qui fait qu'ils étaient à la fois spectateurs et acteurs d'un film. Et il faut que ça tire vers le haut. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui tirent vers le bas, malheureusement. En fait, aujourd'hui, toute notion de marginalité, c'est le conformisme ambiant, en fait. Il y a une telle défiance entre tout ce qui correspond de près ou de loin à une autorité sociale ou morale qu'être marginal nous donne la sensation d'être libre, alors qu'en réalité, tout le monde est marginal, à part dans la France profonde où vraiment tu as les traditions familiales qui se perpétuent et où tu as un berger qui est fils de berger, petit-fils de berger, petit-fils de berger. Aujourd'hui, tout le monde veut créer sa start-up. Tout le monde regarde des vidéos de motivation sur Internet et pense baiser le système, sauf qu'en fait, ils sont 1 million à connaître... les savoirs secrets des entrepreneurs les plus fortunés, tu vois. Tout le monde pense... Tu vois ce que je veux dire ? En fait, toute notion aujourd'hui d'individualité et d'un conformisme confondant. Et aujourd'hui, ce qu'on dire simplement, je pense que le gouvernement n'a pas tort sur tout. Ce qui est vrai. Hein. Enfin, moi, je suis pas très, très fan du gouvernement actuel, mais je pense qu'il n'a pas tort sur tout, en tout cas. C'est déjà être un mouton du système. Mais en fait, c'est déjà ça, une posture... Ouais, bah écoute, c'est bon, t'es bon pour bosser sur France Inter, machin, on sait pour qui tu votes, etc. Alors qu'en fait, c'est déjà une posture qui nous rend impopulaires. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, t'as clashé Raoul sur Twitter pour te faire connaître, mais en fait, si j'avais voulu me faire connaître, j'ai des connaissances en commun avec Didier Raoult, étant originaire du sud de la France, le mieux aurait été de le rencontrer, de lui faire des tours de mentalisme. Là, j'aurais cartonné, en fait. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ah oui, non, mais c'est ça. Non, mais c'est ça le truc. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, j'ai un ressenti comme ça qui est que tout ce qui plus les gens se sentent en décalage de la société de par ce qu'ils font ou de par ce qu'ils sont, plus généralement ils rentrent dans un espèce de conformisme ambiant incroyable, à l'exception de très très rares cas qui sont extrêmes. Et finalement, dans tout ce petit bonhomme de chemin, c'est la conclusion de mon livre, hein, où je dis qu'en gros, encore une fois, c'est nous ne sommes plus ce que nous sommes la manière de nous présenter. Quand on te dit, tiens, tu me passes ton compte Instagram, tu n'as pas toi de compte Instagram. L'avatar social que tu veux donner de toi a un compte Instagram. Et tu n'es pas cet avatar social-là. Et nous sommes tous devenus des imposteurs à cause de ça. Et donc, dans cette société-là, je pense que le salut de l'humanité, c'est en tout cas une croyance que j'ai, passe fatalement à un moment donné ou à un autre par l'esprit critique. C'est pour ça que j'en ai fait ma mission. Mais si jamais le monde avait besoin d'autre chose, par exemple de poésie, ben je ne ferais que des poèmes sur scène, je pense. J'ai envie d'être un artiste utile.
C'est quoi ton avatar social, toi?
Ben pour le coup, je montre quand ça va, je ne montre pas quand ça ne va pas. Ce qui explique des fois je poste tous les jours et des fois je ne poste pas tous les jours. Je montre pas ce que je. Y a, par exemple, mon Instagram, tu sais, il y a des gens qui font leur présentation Instagram en trois lignes, tu sais, genre en mode trois colonnes avec une photo sur trois qui correspond à une thématique, comme ça c'est bien rangé, c'est joli. Moi, ça, j'ai jamais fait ça. Je vois un truc rigolo, je le poste en photo, je le poste sur Instagram, ça va sur Facebook de suite derrière, et je mets des messages rigolos, j'ai des réactions, j'ai pas de réaction, je m'en fous. C'est. Je. Ouais, mon avatar social, je sais pas. Je pense qu'il est. Ben pour le coup, lui, il est anticonformiste. En tout cas, il est bien pensant pour certains, donc anarch aujourd'hui. Aujourd'hui, les anarchistes sont des bien pensants. Mais je pense que, enfin, je sais pas, je sais même pas. Il y a des gens qui m'ont appelé anarchiste de droite récemment. Enfin, récemment, c'est il y a
Anarchiste de droite, hein.
deux,
Je te
trois
vois
ans, il y a
plus là,
quelqu'un.
je te vois plus comme communiste qui veut se battre plutôt que
Ah
comme.
non, 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 je suis pas communiste. Non, oui, j'ai toujours eu des sensibilités
Non,
de moins de
mais je dis
gauche,
pas
mais pas
communiste dans
communiste.
le sens, t'as quand même des visions
Ouais.
humanistes, on va dire
Ah
aussi. Et
oui, non, humaniste, c'est une évidence.
après, communiste
Humaniste, c'est une
plus dans le
évidence.
côté bagarreur et envie de se
Ouais, dans le côté
battre,
lutte.
la fourche,
La lutte.
voilà.
Ouais, bien sûr. Non, mais évidemment. Non, mais ouais, anard de droite, ça m'a fait rire. En fait, j'ai compris qu'un anard de droite, pour n'importe quel mec de gauche, c'était un gars qui était de droite, mais qui était sympa. Je crois que ça veut dire ça, en fait. Vraiment, je crois que ça veut dire ça.
Un peu
Mais je
d'anarchie, tu
connaissais pas.
vois.
Non, mais je l'ai même rajouté sur mon site internet, tellement ça m'a fait rire. Parce que, en fait, c'était à 2-3 ans, il y a un mec qui m'a dit ça et je ne savais pas ce que c'était. Et je suis allé voir, il y a un site qui s'appelle Anarchiste de droite, je suis allé voir. Et j'ai vu des noms, j'ai vu Raymond Devos, j'ai vu Pierre Desproges, j'ai vu Fabrice Luchini, j'ai vu Michel Audiard, j'ai vu, tu vois, et je fais, bah ouais, mais ça me va, moi, comme appellation, tu vois. Je suis qu'au milieu des gens que j'admire, Gaspard Proust, etc. Non, ouais, c'est bien, non, c'est bien, je suis heureux. Et en fait, je sais pas. Non, mais c'est rigolo. Parce que c'est rigolo parce que là aussi, tu vois, on est dans un monde où, en fait, on te colle ton étiquette. C'est les autres qui savent mieux que toi ce que tu penses. Et encore une fois, je pense que c'est très lié à la polarité. En fait, tout ça, je pense, est un espèce de sac de nœuds où tous les nœuds sont sur la même corde. Et où on a l'impression qu'il y a une infinité de cordes, mais en fait, tous les nœuds sont sous la même corde. La polarisation de la pensée, l'instantanéité de l'information, la gestion de n'importe quel débat comme un match de catch. Je pense à des émissions comme celle d'Hanouna où tu vas avoir une femme voilée. Caricatural, genre il en existe quatre comme ça en France, tu vois.
Ils la mettent.
Voilà, et ils la mettent avec un voile le plus noir possible, où on voit le moins les yeux possible, tu vois, le truc de fou. Et en face, ils te mettent le dernier des fachos du RN. Allez-y, débattez, ça va être constructif. Tu vois, le truc génial. Donc, la polarisation de la pensée, je vois que t'es mort de rire, la polarisation de la pensée, ce genre de débat à la télé, le fait que la pensée est couchée sur 280 caractères sur Twitter, parce que ça aussi, Twitter vit de ça. Twitter génère, vit de la frustration, vit des idées courtes au caractère réduit, à la liberté d'expression réduite. Twitter n'est pas rentable et vit de ça. Enfin bref, enfin, je ne sais pas si Twitter n'est pas rentable, je ne crois pas. Mais en tout cas, c'est là où Facebook l'est. Bref, ces trois trucs, l'absence, l'instantanéité de l'information, en fait, voilà, tout ça, à mon avis, le fait qu'on te colle, c'est la même étiquette. La même corde, je veux dire, sur laquelle il y a une infinité de nœuds qui sont tout emmêlés, quoi. Et ça, pour moi, c'est ce que j'appelle le virus informatif. C'est le sac de nœuds du problème, qui est pour moi le plus gros problème du 21e siècle, et qui s'empire d'année en année. Et là-dessus, je suis très pessimiste. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a un moment donné, et quand tu es personnage public, c'est dur, parce que tu veux un peu contrôler l'image que tu donnes de toi. Mais il y a un moment donné où, en fait, il faut déconnecter. Et moi, ma femme m'aide énormément à ça. À faire une décure de réseaux sociaux, elle m'a dit, après 20 h, tu regardes plus ton téléphone, tu vas pas voir les commentaires de haters, c'est bon, quoi. Et elle a raison.
Surtout qu'en plus, toi, t'es... Enfin, C'est grâce aussi à YouTube, etc., que tu te fais connaître, j'imagine. Donc,
oui,
tu
en plus, oui.
Ça, comment tu gères?
Non, ça, je le gère bien. J'ai toujours eu rien à foutre des haters et j'en ai 1%, en fait. De...
Donc,
voilà, oui, non, mais c'est des trucs. Puis en plus, c'est tout. Enfin, c'est des mecs qui parlent plus d'eux que de toi, tout le temps à côté de la plaque, c'est à base de. Je me demande comment c'est possible d'être en léthargie totale comme ça. C'est-à-dire que des fois, quand j'ai chanté Hexagone, il y a des mecs qui disent bah, encore un petit bourgeois qui, dans son 100 mètres carrés, ne comprend pas qu'on a envie de sortir, etc. Sauf qu'en fait, au moment où j'ai été confiné à 3 dans un T2. Enfin, les mecs ne savent même pas de quoi ils parlent. Enfin, tu vois, mais c'est délirant, en fait, pour ces gens-là de s'imaginer qu'on peut ne pas être d'accord avec eux sans être un privilégié ou être un méchant ou être soit un méchant, soit un con, soit un privilégié. Voilà, c'est la rhétorique complotiste par essence et de croyance. C'est la rhétorique dogmatique par essence. Comme j'ai raison, que je lutte pour une cause noble et que j'ai des bons arguments, ceux qui ne sont pas d'accord avec moi sont soit fous, soit idiots, soit méchants. Moi, quand t'as un mec qui me dit « tu es un homme construit, tu n'acceptes pas de te déconstruire parce que soit tu es facho, soit tu es réac, soit tu es privilégié, tu t'en aperçois pas, soit machin », j'entends la même chose que quand un Louis Fouché dit « les médecins qui ne sont pas pour la chloroquine, soit ne font pas le travail, soit sont payés par Big Pharma, soit sont… » Voilà, il n'y a pas une possibilité dans laquelle on est des gentils, pas d'accord. Ça n'existe pas. Donc en fait, c'est voilà, dans un monde comme ça, tu ne peux pas débattre avec ces gens-là, c'est insupportable. Et c'est pour ça qu'il faut de la pensée modérée et de la nuance. Je pense qu'on perd totalement l'esprit des Lumières aujourd'hui, et c'est malheureux dans notre pays.
Maintenant, passons à tes plans un peu pour le futur. Alors déjà, j'ai une question super importante. Les gens vont peut-être pas savoir.
Je t'en prie.
C'est quand que ça sort Fake Up là ? C'est sûr le 11 novembre ?
Putain, j'ai revu ce matin... Attends,
non, mais depuis... C'est peu de ne pas répondre.
J'ai revu ce matin le film.
Ouais. Donc Fake Up, c'est ton prochain le documentaire là qui est...
Le documentaire qui va sortir le 11 novembre. Alors déjà, il y a un film et il y a un livre qui va sortir. On n'a pas encore fini le livre, donc le livre sortira plus tard. Mais en novembre aussi. Oui, ça s'appelait Fake Up Plus, en fait. C'est un guide de visionnage complet. Là, pour le coup, c'est le debunk complet de Hold Up Plus. Et ça prouve aussi le temps qu'il faut pour, enfin, bref. Et dedans, il y a les entretiens intégraux des extraits que j'ai mis dans Fake Up de Gérald Brunner, de Laurent Alexandre, de Karine Lacombe, de Rudy Reichstadt, de Nathan Pfeffers-Madja, du beau monde que j'ai eu. En fait, si tu veux, quand tu as une problématique comme ce film-là, tu t'essaies de te blinder aussi bien juridiquement que d'être exhaustif. Par exemple, le film ne parlera pas des vaccins, parce que pour les vaccins, il me faut aussi 6 heures, tu vois. Et donc, le film ne parlera pas des vaccins parce qu'il a été initié à une période où la campagne vaccinale n'avait même pas commencé. En réalité, il sort un an plus tard, mais le scénario a été écrit. On ne piquait que les gens de 80 ans et on était en plein débat sur l'AstraZeneca. Donc, c'était très compliqué pour moi de... Voilà. Et donc, si tu veux, ça déjà... Je sais que 90% des commentaires, parce que ce film est blindé, il est sourcé, il est rigoureux. Et en gros, ce que j'ai voulu faire avec Fake Up, Hold Up est une espèce de bouse complotiste de 3 heures, très longue, avec de la musique stressante, du montage dramatique, qui t'apporte un flot ininterrompu de nouvelles informations. Fake Up, c'est la même chose. Ça dure de nombreuses heures, il y a des intervenants qui font argument d'autorité, il y a de la musique stressante et dramatique, c'est monté rapidement, et ça t'apporte plusieurs heures de flot d'informations nouvelles en continu, ininterrompu. Mon objectif implicite avec Fake Up, c'est d'apporter aux complotistes un autre regard que le regard complotiste, qui n'est pas celui de BFM non plus, parce que dedans, j'égratigne nos gouvernements et je dis aussi quand ça ne va pas, et je critique même BFM, CNews et LCI dans leur gestion de la crise médiatique, de la crise sanitaire, dans la gestion médiatique. Donc, l'objectif, c'est de dire, voilà, vous avez deux trucs équivalents sur la forme. Deux films très longs, très blockbuster, très dramatique, très monté avec des infos. Pourquoi vous en croirez un et pas l'autre ? Pourquoi il vous est plus agréable de croire qu'il y a des gentils et des méchants ? Pourquoi il vous est plus agréable d'adhérer à un système qui relève presque de la fiction ? Pourquoi il ne vous est pas agréable de penser que la réalité est plus complexe ? Justement parce qu'elle est plus complexe. Et donc, tout Fake Up, en fait, est une expérience. C'est-à-dire que c'est un film extrêmement méta, parce que c'est un film dans le film dans le film. Et le vrai film Fake Up, ça va être les réactions dans les commentaires. Et je le signe aujourd'hui, 90% des réactions vont porter sur les sujets du vaccin, alors que le film n'en parle pas, et vont porter sur la chloroquine, alors que ça fait 10 minutes la chloroquine dans un film de plusieurs heures. Je te le garantis à 100%. Ça va parler du Lancet, des vaccins et de la chloroquine, soit 10 minutes de film, et le vaccin n'y est pas dedans. Voilà pourquoi je pense qu'on a perdu la guerre des cerveaux. Et voilà pourquoi je suis d'accord avec Gérald Brunner lorsqu'il parle d'apocalypse cognitive dans son dernier essai.
Je très bien d'ailleurs. Il
est exceptionnel.
Pas trop sur le sujet, mais j'ai lu le livre.
Gérald est un ami.
Mais c'est sourcé en tout cas. Comment on peut
c'est génial. Ben, Gérald a toujours voulu travailler pour réunir la sociologie, qui est une science humaine, avec une méthode plus dure, avec de la sociologie evidence-based. C'est un combat qui est d'une noblesse absolue. Là encore, une fois, c'est beau, c'est valeureux. Et en plus, humainement, Gérald est quelqu'un d'adorable. J'aime énormément cet homme. Et je le salue s'il nous écoute. Voilà, je lui enverrai le podcast.
Je peux lui envoyer. Mais s'il veut passer d'ailleurs aussi, il peut venir dans le podcast pour qu'on parle de ces sujets.
Pour parler sociologie, ce serait génial. C'est un client
exceptionnel. C'est intéressant. J'y connais rien, donc c'est quoi son métier. Ce serait intéressant. Et donc, il y a Fake Up qui va sortir là. Donc, le 11 novembre, c'est ça? C'est la date officielle? Je ne suis jamais sûr.
Tout à fait.
11 novembre. Est-ce que tu as d'autres projets d'écriture de livres aussi?
J'ai un projet d'écriture de livre sur l'hypnose. J'ai une web-série sur le complotisme qui s'appelle Dessine-moi un mouton, qui prend le regard du Petit Prince sur tout ça. De replonger un peu dans une naïveté, ce serait une série de 10 épisodes, de 10 échanges en fait, avec 10 complotistes dans 10 villes de France. Donc ce serait une web série, ça n'a pas encore été mis en chantier. Il y a un gros film qui lui a été mis en chantier, qui devrait arriver l'année prochaine ou l'année d'après, mais là c'est totalement pas réalisé à la maison avec zéro moyen. Là il y a une production qui est derrière, qui cherche actuellement des financements, et l'objectif est de faire quelque chose de qui finira sur une grande plateforme de diffusion. On est en train de travailler en ce sens.
Toi, le réalisateur.
Et qui va parler. Et c'est moi le réalisateur. Oui, ouais. Tout à fait. Et qui, je suis comédien principal, scénariste et réalisateur, et qui va parler de déviance sectaire. Voilà. Il y a beaucoup de choses autour de beaucoup de trucs. Sur YouTube, j'ai le projet de relancer tous mes formats là, très prochainement après Fake Up, et d'essayer de les faire perdurer dans le temps, de manière rapide, toujours en continuant de faire des petites piques. Là, j'ai une vidéo sur le Ouija. J'aimerais beaucoup parler de Stéphane Alix aussi, et l'interviewer en face à face. Il avait l'air intéressé, donc je vais voir si c'est toujours le cas, etc. Et toujours la tournée avec le spectacle, toujours des projets plus personnels aussi. Je pense que j'ai ralenti ma vie professionnelle parce que depuis 2020, avec la Covid et finalement, ce sentiment de fragilité, que tout peut basculer, je me suis aussi un peu plus concentré sur ma vie personnelle, pour le meilleur comme pour le pire. Donc voilà, mais voilà, je pour le futur, j'espère plus de succès en termes de projet, plus de stabilité dans tous les sens du terme, plus de monde à qui partager mon art, mon œuvre.
Tu disais que tu as ralenti par rapport à tes 15 ans. Quand tu racontes un peu tous tes projets futurs, j'ai pas l'impression que tu es beaucoup ralenti quand même. Je me demande d'ailleurs quand tu dors.
Quand je suis en grosse période de travail, je travaillerai avec pas loin de 60 à 70 heures par semaine. J'ai le bureau à côté de ma chambre, donc si tu veux, des fois, j'arrive pas à dormir. 23 heures, je me lève et j'écris un chapitre du livre, quoi. Tu vois, donc c'est vrai que le temps de travail accumulé n'a rien à voir. Mes pauses repas, je mange devant mon ordinateur. Enfin, je travaille dur et puis j'essaie du coup d'être pas trop sédentaire. Donc, j'essaie de courir tous les jours une heure à deux heures aussi, tu vois. Donc, ça prend du temps. Et j'essaie de faire des choses. Mais c'est vrai que c'est dur. C'est une vie qui est dure, qui n'est pas facile et qui le sera, j'espère, plus tard. Mais le jeu en vaut la chandelle et on m'apporte tellement de soutien, on m'apporte tellement de... Là, récemment, il y a quelqu'un sur Tipeee qui m'a donné 1000 euros, qui m'a dit je devais partir en vacances, ça a été annulé à cause de la Covid. Autant que ça te profite à toi. C'est incroyable, t'es là, tu relis trois fois le mail, tu relis trois fois le montant, tu regardes le plafond, tu reviens vers le mail, tu comprends pas, et t'es là et tu te dis je peux pas lui offrir au moins une place de spectacle, peut-être lui offrir un livre, non, parce que là t'es là, non mais le livre je l'ai déjà, c'est terrible. Et mais les gens ne s'aperçoivent pas à quel point c'est important. C'est-à-dire que je ne vis aujourd'hui, j'ai durant la phase Covid, j'ai dilapidé toutes mes économies que j'avais économisées depuis mon adolescence, pour un jour accéder à la propriété, qui était un rêve que je n'ai pas abandonné, mais que je remets à plus tard lorsque la situation s'y prêtera mieux. Voilà. Donc la vie d'artiste est très très souvent instable et heureusement que la communauté naissante qui se forme autour de mon travail sur Internet me donne parfois une sensation, bien que temporaire et éphémère, d'un début de semblant de sécurité. Et c'est très 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 important, et je pense qu'il ne sous-estime, il sous-sous-sous-estime, je pense, les gens, l'importance que c'est dans la vie d'un artiste, et surtout dans la vie d'un artiste comme moi, qui suis en plus de ça un peu particulier par rapport à d'autres, quoi.
Et en parlant justement de création de contenu, Ça prend beaucoup de temps de faire des documentaires, ça prend beaucoup de temps pour toi de faire des vidéos parce qu'il y a un gros travail de recherche derrière. On en parlait dans mon épisode précédent avec Coco qui est chanteuse et on disait est-ce qu'on privilégie la qualité du contenu ou la quantité ? Donc la quantité pourquoi ? Pour se faire connaître versus la qualité où bah, on peut faire de la qualité mais c'est assez rare qu'on sorte quelque chose parce que bah, ça demande du travail. Comme moi un peu mes podcasts où j'ai du mal de sortir un épisode de toutes les deux semaines, pour moi c'est quasiment impossible et ça ne m'intéresse pas. Donc je voulais te poser la question, comment toi, avec ce travail de qualité, tu fais pour promouvoir ton contenu ? Comment tu fais pour te faire connaître ?
C'est un petit peu compliqué quand on fait aussi la forme que je fais. Par exemple, dans Mindlayer, la volonté était de remettre en avant une enquête qui a été censurée, mais du coup, j'apparais peu dans le documentaire. J'apparais juste pour faire des points de transition. Ce qui fait que les gens, même s'il y a 2 500 000 vues, un peu moins je crois, 2 300 000 ou cas, à l'heure où je te parle, y a pas, je ne dis pas dans le film, mettez la cloche, abonnez-vous, likez, partagez, donner sur Tipeee. Donc les gens ne le font pas. Dans la vidéo de Bruno, je le fais. Et dans la vidéo de Bruno, j'ai gagné. La vidéo de Bruno a beaucoup moins. Les vidéos de Bruno ont beaucoup moins de vues, même cumulées, que Mindlayer. Et pourtant, j'ai gagné au moins 2 fois plus d'abonnés avec Bruno qu'avec Bourgoin, où finalement j'en ai gagné peu, relativement vis-à-vis en proportion du nombre de vues. C'est pas des, et le peu que j'ai gagné, c'est des abonnés de. Mais c'est pas des abonnés utiles, c'est pas des gens qui iront voir d'autres choses que je vais faire, parce que c'est ça qui les a intéressés sur le moment. Donc pareil pour Fake Up. Je pense que le travail fourni ne sera. Je pense que ça fera beaucoup moins de vues que Mindlayer, évidemment, puisque la gestion médiatique de l'affaire n'est pas du tout la même. Je pense que ça fera beaucoup moins de vues. Je pense que ça fera beaucoup moins d'abonnés par rapport au temps. Par contre, j'ai essayé de conjuguer un peu la forme. Comme là, pour le coup, c'est un travail d'écriture que j'ai fait avec mon camarade Antoine Arézu et qui a des éléments artistiques dedans et tout. J'ai tenté de me mettre en avant un peu dedans, de parler de trucs, de rappeler au début, de donner, etc. Et le but, c'est de canaliser au maximum les vues en un engagement, que ce soit un type de soutien, un like, un abonnement, un partage, même un partage c'est gratuit, ça permet à d'autres gens de connaître le film. Je pense qu'il n'y a que ça qui peut, il n'y a que les petites mains. Et après la presse, évidemment, lorsque le film va sortir, je vais essayer d'en parler dans Le Vrai du Faux sur France Info, je vais les contacter, je vais essayer d'en parler dans des émissions matinales sur des chaînes d'infos qui débunk. Ça peut les intéresser d'avoir un profil comme le mien, et en plus ça peut faire trublion de dire que dedans je parle mal d'eux et leur expliquer pourquoi chez eux. Donc tout ça fait que je vais tenter de donner de la couverture médiatique. Mais encore une fois, tu parlais de ça, c'est un travail épuisant. C'est pas mon travail, c'est le travail d'un attaché de presse. On parlait tout à l'heure de tous les emplois que je cumule, mais il y a aussi tous les emplois que je cumule en off, à savoir coproducteur, producteur artistique, directeur artistique, parfois même régisseur lorsqu'il faut monter les décors, les machins, attaché de presse.
Marketing. Voilà.
Mon site internet, c'est moi qui l'ai fait. Tous mes montages, c'est moi qui l'ai fait. Qu'il est, parce que même un réalisateur, c'est rare qu'il soit, enfin c'est rare, plus de nos jours, mais un réalisateur à l'ancienne, etc., et c'est pas lui qui est sur le banc de montage à faire du Final Cut, tu vois, ou du Premiere Pro. Donc là, c'est le cas. Donc c'est un peu plus complexe que alors, je vais pas me plaindre de ma situation, j'ai la chance de faire un métier qui me plaît, mais il y a aussi, c'est un métier qui est pas crevant, je travaille pas sur un camion poubelle, je travaille pas assis derrière une caisse dans le bruit avec des clients désagréables 10 heures par jour. J'ai beaucoup de soutien pour les métiers d'utilité publique comme cela, parce que pour le coup, une caissière et un éboueur, je sais à quoi ça sert. Un mentaliste, pas toujours, tu vois, dans le paysage français. Donc, il y a aussi un syndrome de l'imposteur vis-à-vis de ça. Donc, c'est pour ça que j'ai la chance de faire un métier qui me plaît. Mais en termes aussi de couverture sociale, c'est le 19e siècle. J'ai pas de CDI. Tu vois, t'es ton propre patron. Tu fais une demande de monétisation. Les gens ne pensent pas à ça, mais je ne fais pas de monétisation sur mes vidéos. Je fais une demande à YouTube de monétisation. Donc, je demande à YouTube, est-ce que je peux toucher de l'argent de mon travail ? YouTube regarde mon travail et me dit, là, non. T'as dit putain, t'as fait un doigt d'honneur, t'as utilisé 30 secondes de Get Lucky, va te faire foutre. Donc, c'est un métier qui me plaît énormément. C'est un milieu que je déteste. Milieu du spectacle. C'est un métier, c'est que des gens quasi névrosés et j'ai rencontré énormément de gens malsains. C'est pour ça que je n'ai jamais fait le Festival d'Avignon, tu vois. C'est-à-dire que l'ambiance place des Corsins à boire des pacalos en disant du mal de tout le métier à qui on a fait la bise dans la journée, c'est pas mon ambiance. Donc, j'adore mon métier en dépit de mon milieu. J'ai la chance de faire un travail que j'aime, mais dont les conditions sont parfois très, très laborieuses. est difficile, surtout si on veut le faire avec de la rigueur, sans se prostituer, sans faire ce que l'on n'aime pas. J'ai refusé des contrats très juteux, j'ai refusé des partenariats qui auraient pu me rapporter beaucoup d'argent, j'ai refusé de me dévoiler dans des émissions de télévision où je ne me reconnaissais pas, etc. Donc, des rôles, ça se refuse. Et voilà, on a toujours le choix. Et moi, je veux garder ce choix-là et cette liberté-là. Tout ça fait que, résultat des courses, je suis très heureux de mon travail, même s'il est usant, crevant, et où il est compliqué parfois, sans compter la vie personnelle, sans compter tout ce qui s'est accumulé. Donc, c'est une des raisons du report de Fake Up et de mon inactivité, plus ou moins, sur l'année 2021. Ouais.
Ouais, maintenant, on va clôturer avec les deux questions finales que je pose toujours. La première, c'est quoi les trois valeurs de vie de Clément Fraise ? Ou 4, ou 5, ou 2.
Ou 10, parce que je suis quelqu'un d'exceptionnel. L'hygiène, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire mental, physique, corporel. J'aime quand les choses sont claires, quand elles sont bien rangées. Pas forcément dans des cases. Il y a des choses qui ne méritent pas d'être mises dans des cases, mais qui sont mises dans leur panier de choses sans cases. Tu vois ce que je veux dire ? J'aime la sécurité de certaines zones. Donc c'est une espèce d'hygiène, une volonté de stabilité. J'ai pas dit que c'était une valeur, en l'occurrence là c'est plutôt un objectif. Mais en tout cas voilà, une des valeurs c'est ça. La fidélité, la loyauté. Il y a des, par exemple, je n'ai pas de contrat d'exclusivité. Je suis libre de travailler avec qui je veux. Mais je veux travailler avec les mêmes personnes parce qu'on a développé une méthodologie, parce qu'il y a de l'affect qui joue, parce que ce sont des gens qui m'ont soutenu quand j'étais rien, parce que ce sont des gens qui m'ont toujours accompagné, parce que ce sont des gens qui me laissent des libertés créatives énormes, etc. Donc la loyauté, la fidélité. En valeur, la vérité. La vérité, je crois. J'ai énormément souffert du mensonge. C'est peut-être aussi pour ça que c'est une thématique qui me tient autant à cœur. Frère Mind Lyer qui parle de mythomanie avec les maîtres de l'imposture ou des choses comme ça. Je n'aime pas le mensonge. Je comprends qu'on puisse ne pas tout dire. Je comprends qu'on puisse mentir par omission ou pour protéger. Je comprends qu'on puisse des fois enrubanner une vérité publique parce que l'image, pour qu'elle passe mieux, etc. Par contre, les apparences contraires, les mensonges, les avatars numériques, les escroqueries, j'ai énormément de mal avec ça. Les choses qui peuvent mettre en léthargie ou en difficulté ou sur un pied d'inégalité d'autres personnes pour ton intérêt personnel. En gros, le complot, hein, tout simplement. Donc, les gens qui pensent que j'aime vivre dans un monde de mensonges parce que Matrix, parce que la pilule bleue, ça, c'est comme ça que les complotistes nous voient, ils se mettent le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Récemment, il y a eu les Pandora Papers, là. On n'a pas entendu les complotistes autour de ça, alors que là, c'est un véritable complot gigantesque et mondial qui mérite qu'on s'y attarde.
Il y a des complots, il y en a plein.
Là, c'est des complots, il y en a plein, et il y en a tous les jours. Et c'est Julian Assange qui disait... Je ne vois pas pourquoi les gens perdent du temps avec le 11 septembre alors qu'il y a des vrais complots tous les jours hein, qui méritent d'être... Bah, peut-être parce que c'est moins blockbuster. Hein. Faut plus creuser. Faut lire l'anglais. Non, c'est chiant. On va plutôt écouter ouais. Raoult. J'en sais rien.
Et la dernière question, c'est quel conseil tu te donnes à toi-même pour t'améliorer, pour être un meilleur Clément Fraise dans le futur ?
J'ai rencontré récemment Serge Marquis, en fait, qui a mis des mots M-A-U-X sur mes... Non, des mots M-O-T-S sur mes mots M-A-U-X, ou du moins une méthodologie de pensée que j'appliquais déjà sans trop le savoir. Serge Marquis, que j'embrasse, qui est un médecin, qui a écrit notamment « On est foutu, on pense trop », qui est un bouquin incroyable, que j'ai rencontré aussi avec De Laurentiis, la chanteuse que j'aime énormément, et c'était un bonheur de la rencontrer, elle et lui. J'ai une photo d'ailleurs sur mon Instagram où je suis avec les deux. Serge Marquis a fait un TEDx Toulouse, un TED Talk là-dessus, où en gros, il dit qu'on a cette espèce d'hamster qui tourne à côté de notre oreille, qui grignote notre attention, qui nous fait penser, etc. Et en fait, il faut décomposer ça. Alors, je ne me rappelle plus exactement la méthode, mais c'est on se réancre, en gros, dans ses chevilles. On ouvre une fenêtre de tolérance sur nous-mêmes, tu vois, et on se dit, ai-je un problème actuellement ? Et quand la réponse est non, et elle est à 99% du temps non, Il dit « Don't miss the show ». Et ça percute comme phrase « Don't miss the show », ne rate pas le spectacle. Ça peut être lorsque tu vis un bon moment avec ton amoureuse et que tu as des pensées négatives. Ça peut être lorsque tu es en train de faire un truc un peu exceptionnel dans ta vie et que tu es stressé. Moi, j'ai vécu ça lors de grands moments, lors de télévision, lors de machin. Et en fait, il faut, voilà, il faut pas passer à côté des... On se fixe souvent un objectif de vie à 40 balais et puis on l'obtient et on s'aperçoit qu'en fait, ce dont il fallait profiter, c'est le chemin. Et que maintenant, on a l'objectif, il est décevant, fatalement, parce que la vie est toujours décevante. Donc, c'est toutes ces problématiques qui sont finalement très, très, très humano-humaines. J'aimerais pouvoir avoir la bonne méthode et améliorer ma méthode et améliorer ma psyché pour les affronter et être plus stable et être plus ancré dans mes chevilles, je pense. C'est mon grand objectif de vie, ouais.
C'est une belle fin d'épisode, Don't miss the show. Ah, j'aime bien, là, pour finir, là, parfait. C'est un côté poétique. Merci
Never
beaucoup,
miss
Clément.
The show. Merci à toi.
Merci beaucoup.
Merci à toi, avec plaisir. Et je t'enverrai Gérald Bronner, parce que je veux un épisode avec lui, je veux l'écouter.
Ce podcast étant une histoire commune entre ses auditeurs et ses invités, je voulais vous remercier pour votre écoute. Aussi, vos notes, commentaires ou encore le bouche-à-oreille sont au cœur de la réussite de cette aventure. N'hésitez donc pas à partager votre avis.